Je vous remercie pour cette aimable invitation. Considérons que c'est un honneur d'être convié à commémorer avec vous les 50 ans de la naissance de la discipline sciences de l'éducation. Je vous cite. S'agisse-t-il vraiment du certificat de naissance de la discipline ? Elle aurait donc obtenu, à cette date précise, sa reconnaissance académique, permettant désormais aux personnes qui œuvrent de tutoyer leurs consœurs, philosophes, psychologues, sociologues, économistes, et de s'insérer dans les réseaux scientifiques qui relèvent des sciences de l'éducation, représentant cette communauté aussi sur la scène internationale. Donc, si socialisons, si disciplinons, pour y socialiser et discipliner les générations suivantes. Assurément, oui, puisque 1967 marque indéniablement un tournant décisif dans la manière dont se concrétise la recherche éducationnelle en France. Les premiers diplômes de sciences de l'éducation, au pluriel désormais, bientôt démultipliés, complétés, générant des postes universitaires, des réseaux de communication, une section spéciale du CNU, une professionnalisation donc de la recherche. Les avancées et défis relevés sont prodigieux, sans aucun doute. Assurément, non. La réponse est aussi non. L'arrêté du 2 février 1967 pourrait aussi être considéré comme un épiphénomène. Tout du moins, pour qui s'attache à comprendre comment émerge, se construit, se transforme un champ de savoir, inscrivant le processus dans une dynamique plus ample, pour en cerner les controverses, tensions qu'il traverse, ce que j'appelle ici ces contradictions, donc dans le titre de la conférence, qui fonctionnent aussi comme ressort de son évolution. Bien évidemment, les commémorations stimulent l'historien, ne serait-ce que pour être de la fête, et même si les historiens ont certes le goût des archives, ils peuvent aussi déguster comme moi d'autres saveurs. Bon, les lapsus, on en a déjà eu, puisque le vice-président, quand il a parlé de la première chaire, il a commencé en disant « psy » et après il a parlé de « sciences de l'éducation ». Mais bon, je suis désolée. Plus sérieusement, l'historien apprécie de constater que les acteurs du temps présent semblent partager sa curiosité pour le passé. Le voilà parfois plus embarrassé lorsqu'il s'agit de célébrer certains jubilés qui tiendraient pour acquis qu'une date, un événement, une personnalité sont à distinguer. Nombre d'historiens, ici on les cite, l'ont démontré, certaines sacralisations mémorielles servent parfois aussi rétrospectivement de caution légitimatrice. En reléguant dans l'ombre d'autres acteurs et facteurs, elles peuvent potentiellement servir de support à une histoire surnommée des vainqueurs. Il n'est pas simple d'éviter le piège d'un passé mythique, pas plus que d'un passé repoussoir. L'éducation, l'école, la pédagogie et par réfraction, les sciences de l'éducation, nous le verrons, constituent des terrains propices pour cela. Mais l'histoire contient aussi bien d'autres atouts, bien des historiens en ont subtilement témoigné. On le voit ici sur cette dia. Mieux comprendre ce qui a mobilisé nos prédécesseurs, leur débat, combat, prendre la mesure du chemin parcouru, des avancées comme des rémanences, relativiser aussi certaines déterminations et notre propre originalité, permettant possiblement une meilleure intelligibilité du présent pour s'y inscrire comme acteur et assumer plus librement peut-être aussi certains choix. Cela nous confère, certes, une responsabilité pour le futur aussi. C'est dans cet esprit que j'ai choisi pour ma part de me spécialiser en histoire. Suite à l'obtention d'un poste stabilisé en sciences de l'éducation, j'ai souhaité mieux comprendre le milieu dans lequel je me trouvais projetée, pour cerner ce qui fait communauté dans cette discipline et l'espace de liberté que chacun peut y avoir, moi par exemple. Le choix d'entreprendre, avec d'autres, une réflexion sur les sciences de l'éducation, ce qu'elles font et sont, dans différentes périodes et aires culturelles. La petite Genève, d'où je viens, alors avait pour premier horizon de référence l'Hexagone. Comme modèle de travail, celui colossal entrepris par l'AECSE, que restitue aussi nombre de publications collectives, mais dont l'ouvrage coordonné par Bernard Charlot en 1995. Nous avons donc invité Bernard Charlot, puis nombre d'autres collègues, dont certains noms vous sont certainement connus, Bayrault, Sifali, Depape, Dominicé, Gautrin, Amline, Novoa, Schriver, à nous rejoindre pour diverses enquêtes collectives sur les sciences de l'éducation. La première s'inaugurait avec cette question : pourquoi êtes-vous en sciences de l'éducation ? Donc je pourrais répondre à votre remarque du début, c'est pas que je ne souhaite pas le débat, mais j'aurais voulu avoir le débat sur cette question et proposer un tour de table où chacun s'exprimait sur pourquoi il est en sciences de l'éducation. Donc on n'en a pas vraiment le temps, mais j'invite chacun à y réfléchir peut-être de son côté. Mais quelle ne fut notre stupéfaction d'entendre Bernard Charlot, alors président de votre association, nous répondre publiquement avec une tranquille assurance « parce que je peux y faire ce que je veux ». Notre discipline se spécifierait donc par l'indiscipline de ses membres et même de ses représentants officiels. L'indiscipline a ses vertus, assurément, j'y reviendrai. Elle contient aussi des écueils. Certes, à cette date déjà, puis inlassablement depuis, Bernard Charlot s'est engagé pour consolider et dynamiser la discipline, contribuant à la disciplinariser, également sur d'autres continents. S'adressant en 2005 à l'Association brésilienne des chercheurs en éducation, il estimait que, venu à sa maturité, elle fêtait ses 25 ans, il était temps que cette communauté relève le pari et défi de se constituer en une discipline organisée, identifiable. Il postule alors que deux conditions le permettent, définir un front de recherche qui serait aussi une mémoire. C'est ce qu'on fait aussi, chacune de ses publications lors de ses commémorations. Autrement dit, une discipline devrait avoir la mémoire de ce qui s'y fait, de ce qui s'y est fait, pour être à même de construire collectivement son devenir, faire communauté, s'instituer par là comme discipline. C'est ce même engagement que je perçois dans les enquêtes conduites en France depuis 50 ans en sciences de l'éducation, dont je salue la richesse. Depuis les travaux des pionniers qui se qualifient aussi volontiers de premiers mousquetaires, on en a parlé, Jean Château à Bordeaux, Maurice Debesse à Paris, bien sûr Gaston Vialaré à Caen, au bilan de l'association elle-même, puis de moult historiens, en particulier Gautrin et le collectif coordonné par Lao et Rogers, on est passé de réflexions avant tout identitaires, que Béhéreau qualifiait joliment d'épistémotionnelles, à des enquêtes sur les pratiques effectives, sur la recherche en train de se faire. Marie-France Chopin et Julie Delalande l'évoqueront dans leur conférence de clôture, plus légitimée que moi, à parler des 50 dernières années en France, et je privilégie pour cette raison une réflexion socio-historienne plus générale. Mon point de vue pour cette mise en perspective historienne et internationale, à l'origine des questions. Comment comprendre les conditions d'apparition d'un champ de savoir sans se confiner à la généalogie des institutions académiques, figures emblématiques, découvertes marquantes, organismes d'accréditation officiels qui, de fait, l'incarneront ultérieurement, mais en embrassant tout l'horizon des possibles existant pour les protagonistes de l'époque sous la loupe. Comment appréhender le processus par lequel un champ de savoir se profile, dans le même temps où ses contours, ses objets, ses ancrages, ses structures sont inlassablement redessinés, ne cessent d'évoluer, sans donc rigidifier a priori ses contours, fossiliser donc cette labilité. Il n'est pas simple de se prémunir d'une vision théologique et présentiste qui projette sur le passé nos normes et valeurs actuelles. Une projection parfois faite en référence à un idéal à atteindre, qui de surcroît a tendance à se référer à d'autres disciplines, prises comme modèle par leur supposée cohérence, objet, méthode, paradigme, et donc crédibilité. Au risque évidemment d'une naturalisation, qui contient aussi l'écueil de confondre posture descriptive et prescriptive. La limite d'ailleurs entre les deux postures est ténue. Souvent un peu simplificatrice, cette vision contribue à reproduire, à renforcer les hiérarchies disciplinaires et logiques du pouvoir qui impactent le monde scientifique et notre quotidien de chercheurs. Historiens et sociologues des sciences, aussi des sciences humaines et sociales, nous ont rendus sensibles à de tels écueils. Pour les déjouer autant que possible, ils plaident pour une histoire sociale et contextualisante, postulant que tout champ de savoir constitue une construction sociale collective sans cesse redéfinie, traversée de contradictions, aussi bien dans son rapport aux champs sociaux de référence, professionnels, politiques, voire économiques, qu'aux autres champs scientifiques, aux champs disciplinaires. C'est donc le point de vue que je privilégie aujourd'hui, proposant cette contextualisation relativement générale, dans une double dimension temporelle et géographique, en prenant en compte deux siècles d'histoire et une perspective internationale, certes limitée au contrat occidental, je serai forcément un peu schématique, mais cela me semble avoir pour avantage de replacer un phénomène, un événement, l'arrêté de 67 par exemple, dans son contexte, le reliant à d'autres phénomènes, l'inscrivant aussi dans une dynamique plus ample, en le resituant à différents niveaux d'échelle locale et globale. Pour cette rétrospective analytique, je m'appuie évidemment sur une vaste littérature disponible sur l'histoire des sciences de l'éducation, tirant parti de ces minutieuses enquêtes archivistiques et amples analyses théoriques, je jouerai quant à moi donc librement sur ces différents échelons et multiples scènes. Mais il s'agit bien de cerner le processus par lequel un champ de savoir acquiert progressivement en deux siècles une plus large assise institutionnelle, permettant une professionnalisation de la recherche, la constitution de réseaux de communication, revues, congrès, associations, favorisant la production de savoir et donc la transmission systématique des connaissances produites à travers la formation qui conditionne la socialisation de la relève. Je vous propose un récit en trois temps, mettant en lumière trois phases, on pourrait dire trois vagues. Il s'agit plus précisément de strates qui s'enchevêtrent, chacune s'ancrant dans l'héritage de la précédente, qu'elle reconfigure simultanément. La partie 1, professionnalisation de la pensée pédagogique pour l'insérer dans l'université. Une science inconsistante. Dans la plupart des nations occidentales sous la loupe, c'est dans le même temps où l'État enseignant se construit, au cours du XIXe siècle, aussi pour construire la nation, pour construire la démocratie, que se démultiplient les initiatives pour hisser la pédagogie au niveau d'une science. Jacqueline Gautrin, que j'ai déjà citée, en a magistralement retracé la genèse pour la France. Elle recourt à la belle expression « une discipline pour la République ». Mais s'agit-il pour autant d'une science inconsistante ? Nombre d'autres recherches documentent le processus dans d'autres contrées du globe, processus qui revêt des configurations particulières selon les sites sous la loupe. Mais ce qui frappe rétrospectivement, ce sont aussi les traits convergents du processus, un peu partout en Occident. En effet, en ce 19e siècle pédagogique épris de science et de progrès, une diversité d'amis de l'enfance, comme ils se qualifient volontiers, s'attache à enrichir la connaissance sur l'éducation et l'enfance. Au fil du 19e, cette réflexion s'intensifie, s'institutionnalise. Des cours, diplômes, postes sont dédiés à la pédagogie. Mais quel est le profil de ceux qui impulsent ce mouvement? Comment se définissent-ils? Qu'ambitionnent-ils? Où, avec qui, pour qui travaillent-ils? Les enquêtes conduites pour y répondre, disons, c'est des enquêtes donc collectives, internationales, auxquelles j'ai participé, mais qui... je m'en alimente ici pour cette présentation, démontre d'abord qu'on assiste à une professionnalisation de la pensée pédagogique qui se concrétise explicitement sous la bannière de la science. Deux indices en témoignent, le premier des chairs, le deuxième, l'indice de scientificité, la nature des connaissances produites, à travers notamment encyclopédies et dictionnaires. En témoignent donc ces chaires, tout ou partie dédiée à la pédagogie, la science de l'éducation, de l'enseignement. Je reconnais avoir été impressionnée par la multiplicité et multiformité de celles-ci. Souvent reliées, et là vous les trouvez, souvent reliées à la philosophie, elles revêtent des dénominations différentes, mais ont pour mission, pour l'essentiel, de former les enseignants, parfois hommes d'église qui sont les premiers maîtres éducateurs du peuple. Les argumentaires justifiant les créations de chaires convoquent couramment les initiatives prises dans d'autres pays, les nations rivalisant alors pour démontrer qu'elles ne sont pas en retard sur la marche de la civilisation qui s'évalue aussi à l'aune de l'évolution des systèmes éducatifs, de la qualité de la formation des enseignants et donc des cours, séminaires et chaires de pédagogie. L'Allemagne semble s'imposer en précurseur avec la chaire de philosophie et pédagogie qui est confiée à Trapp en 1779 déjà. Puis les figures plus connues, d'abord de Herbart à Königsberg, de Stoi, Ziller à Leipzig, de Rhein à Jena, mais d'autres encore à Berlin, Heidelberg, Gießen. Soulignons encore la précocité et diversité de celles instaurées dans l'Empire austro-hongrois, à Vienne, Pest, Prague, Salzbourg. La Russie s'inscrit aussi dans la même dynamique, Moscou, Saint-Pétersbourg notamment. En Suisse, toutes les universités créent la leur dès le milieu du XIXe siècle. Zurich, en 1859, Berne, 1870, Fribourg, 1889, Lausanne et Genève, 1890. Vous arrivez à faire la transposition, 90. À Neuchâtel, un embryon s'y dessine éphémèrement, précisément à l'époque où Ferdinand Buisson y séjourne durant son exil, avant son retour au pays. En France, justement, Gautrin l'a démontré, après de nombreux cours et séminaires, c'est en 1887 que la Sorbonne transforme le cours en chaire de sciences de l'éducation au singulier, laquelle est confiée à Marion, puis Buisson, relayée par Durkheim, qui va s'empresser de la renommer chaire de sociologie et sciences de l'éducation. Portons notre regard sur les chaires instituées dans les contrées anglophones. En Angleterre et en Écosse, plusieurs se créent dès le second 19e, à Londres, Édimbourg notamment, et aux États-Unis. Des traces sont détectées dès les années 1820 dans les écoles normales destinées aux primaires, où œuvrent avant tout des femmes, ce qui n'est pas anodin pour l'époque. Mais l'institutionnalisation de la discipline s'enclenche dès 1830 dans les universités, pour les enseignants du secondaire et directeurs d'école, où ce sont les hommes qui règnent en maître. C'est dans le dernier tiers du XIXe siècle que la discipline s'institutionnalise dans des chaires et connaît un essor impressionnant dans les plus connues des universités américaines. Lagemann repère 27 départements en 1894 et 200 universités formant les enseignants à cette époque. Mais c'est en 1879 qu'est fondée la première chaire spécifiquement dédiée uniquement à la science et l'art de l'enseignement à Michigan. Un instituteur de formation, William Payne, y est nommé et il s'y fait le porte-parole des associations enseignantes. Il assume bientôt moult fonctions dans l'administration scolaire et académique. L'indifférenciation des rôles est courante à cette époque. Il s'investit de la mission de construire une science de l'éducation qui, en formant des enseignants cultivés, permette à la nation tout entière de progresser dans cette marche de la civilisation. Je ne peux résister au plaisir de signaler que donc c'est en traduisant l'ouvrage de Comparé qu'il présente comme la référence pour les USA qu'il s'y emploie. Passons justement au contenu élaboré et construit par et pour cette nouvelle science, c'est-à-dire le second indice, la scientificité. Mais que veut dire donc faire la science de l'éducation à cette époque? Les titulaires de ces chaires ambitionnent de poser les bases d'une science, pour eux, loin d'être inconsistante. Ils s'en proclament et leurs travaux en témoignent. À leur façon, ces professeurs recourent, certes, aux pratiques et méthodes d'enquête et d'analyse de l'époque. La philosophie constitue la science reine. Elle inclut, de fait, en ce 19e, d'autres champs de savoir, la psychologie notamment. Il s'agit de construire des théories générales qui, en récapitulant les connaissances disponibles, serviraient de guide pour l'action. La scientificité est aussi revendiquée dans la démarche documentaliste et encyclopédiste. Quels sont les objets qui s'imposent? Vous trouvez donc là une belle liste établie en 1875 par la Société pour le développement de la science de l'éducation en Angleterre. Une même société avait été créée à cette époque en Allemagne, portée par une analogue ambition. Scientifique signifie donc alors collecter, classifier, ordonner, examiner, discuter, diffuser des données dans l'esprit documentaliste qui prévaut à l'époque. Mais cet esprit se veut systématique et rationnel, ce qui n'exclut nullement une approche spéculative, doctrinaire, alors en vogue. Mais l'ambition de scientificité, rationalité, systématicité, voire reproductibilité et efficacité est indéniable. La masse des données récoltées, analysées et publiées est monumentale. On en a pour preuve, justement, ces monuments que sont les encyclopédies et dictionnaires. Celui de Stoï, déjà en 1861. Il n'est pas anodin de remarquer qu'on y retrouve quasiment tous les domaines couverts aujourd'hui par la recherche éducationnelle. Le dictionnaire de Buisson, bien sûr, que vous connaissez grâce aux travaux de Dubois, Kahn, Denis, Nora, plus récemment, également à nouveau Dubois avec Mérieux cette fois-ci. Tant d'autres encore. Citons aussi les encyclopédies de Rhein en 1895, puis de Monroe en 1911, où à nouveau comparer et convoquer. Ces monuments sont aujourd'hui reconnus comme lieux de mémoire. Mais visiblement, à l'époque, c'est l'Allemagne qui s'impose alors comme mec en la matière. Jules Perrin, étudiant de Saint-Cloud, s'exclame en 1894, au retour de son séjour à Iéna, « C'est le centre pédagogique par excellence. » Et Monroe renchérit sur cette prééminence de l'Allemagne, considérée donc comme une mecque de la pédagogie. Les bases de cette excellence auraient été posées par Herbart. Sa pédagogie scientifique s'articule avec la pratique enseignante. Point de développement théorique sans une école d'application, affirme-t-il. Ses continuateurs systématisent cette idée, non sans la rigidifier. Stoï, à Iéna, crée un séminaire pédagogique qui comprend une école d'application, lieu d'observation et d'exercice pour les futurs enseignants. Et ce séminaire comprend 4 dispositifs de formation, schématiquement présentés sur cette dia. Son successeur, Rhein, a pour credo que la pédagogie scientifique qui s'élabore et s'éprouve dans ces écoles d'application constituera le foyer de ce qui pourra être exploité et déployé dans toutes les écoles publiques. Avec l'herbartianisme, estime Hamelin, la science moderne de l'éducation trouve sa double fondation comme connaissance rationnelle et pratique rationalisée. Cette pédagogie universitaire a pour mandat de former et professionnaliser les enseignants, tous les formateurs, tous ceux qui travaillent dans le champ éducatif, pour garantir le rendement de l'édifice scolaire, étatique ou public à l'époque construit. Le paradigme herbartien connaîtra un retentissement international immense. Une diffusion qui s'accompagne certes aussi d'une rigidification du modèle. Mais son influence est démontrée non seulement pour l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Russie, l'Italie, la Suisse, mais aussi pour le Japon. Aux États-Unis, d'ailleurs également, s'y crée une société herbartienne pour l'étude de l'enseignement qui prendra ensuite le nom de Société nationale de sciences de l'éducation, attestant précisément le lien entre ces deux courants, où s'investissent diverses personnalités, dont Dewey, travaillant en synergie étroite avec les enseignants et même les parents. L'Université de Chicago en constitue un foyer. Certes, le foyer de sa critique radicale aussi, la rigueur de l'herbartianisme étant jugée responsable de la rigidité de l'école publique, qu'il convient donc de réformer, et ceci par d'autres outils moins dogmatiques. Cette critique inaugure, en fait, la deuxième phase de cette histoire, et avant d'y plonger, tirons un premier bilan. L'émergence de la pédagogie comme science est profondément déterminée par le contexte social, politique, économique, culturel dans lequel elle s'insère, tout en contribuant en retour à le transformer. C'est le cas, de fait, de bien d'autres sciences, les sciences sociales en particulier, lesquelles vibrent au diapason des convulsions du monde social. Portées, encouragées par une multiplicité d'acteurs, des femmes aussi, aux profils les plus composites, elles sont institutionnalisées comme disciplines précisément pour fournir des solutions aux questions sociales les plus lancinantes de l'époque. L'éducation en est une parmi d'autres. Les analyses de Bourdieu, Wagner, Wittrock, Ledin, Favre peuvent ainsi être transposées aux sciences de l'éducation. La fabrication de ces nouvelles sciences est pour eux le fait d'une société, je cite, « tout entière au travail ». La partie liée avec le politique, les terrains et pratiques sociales et ceux qui travaillent, qui eux aussi participent de cette nouvelle fabrique des savoirs. Les savoirs qui s'y construisent s'apparentent à des assemblages hétérogènes d'éléments disparates, des mosaïques hybrides. Pour Favre, spécialiste de l'histoire des sciences politiques, cette hybridité est générale, elle est même le plus sûr signe de l'émergence d'une discipline. Bref, à ce titre, les sciences de l'éducation sont une science strictement comme une autre. Mais le champ de savoir sous la loupe a ceci de particulièrement intriguant qu'il se construit autour d'un champ social, l'enfance et son éducation, au sein duquel œuvrent donc préalablement, bien avant que les chaires soient créées, nombre d'acteurs individuels et collectifs qui se multiplient et se spécialisent avec l'extension des systèmes de formation. En particulier, les enseignants, qui eux aussi entendent s'ériger en interlocuteurs légitimes dans la définition de leurs fonctions, statuts, qualifications et plus largement des orientations, des méthodes et systèmes éducatifs. Nombre d'ailleurs de leurs associations professionnelles plaident pour des savoirs pédagogiques mieux définis et entendent contribuer à la construction de cette science de l'éducation. On a beaucoup d'associations enseignantes qui se constituent dès le milieu du 19e siècle, en Allemagne, USA, en Suisse également, qui se profilent comme sociétés pensantes et inscrivent explicitement dans leur statut le perfectionnement, je cite, des méthodes de la science et de l'art pédagogique. Les travaux de Daniel Périsset l'ont montré pour la Suisse. Les premières institutionnalisations de la discipline au niveau universitaire en sont marquées. La discipline se déploie à partir d'un ensemble de savoirs donc préalablement existants, élaborés par et pour ces professionnels sur le terrain éducatif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on recourt à la suite de l'expression de Stifler à la dénomination d'une disciplinarisation à dominante secondaire. C'est-à-dire qu'une profession existe préalablement à la discipline, profession qui a construit des savoirs dont elle revendique la reconnaissance. Profession et discipline se conditionnent mutuellement au sens où elles se co-construisent, s'enrichissent réciproquement dans un rapport évidemment qui n'est pas dénué de tensions, contradictions qui traversent les décennies. Mais c'est un conditionnement à double face qui constitue un ressort pour le développement et l'institutionnalisation, mais en exerçant aussi une pression sur sa définition, orientant ses finalités, la nature des savoirs produits. Ces savoirs sont supposés pouvoir conjuguer critères de pertinence scientifique et sociale qui sont au cœur d'ailleurs aujourd'hui encore de nos questionnements. Partie 2, conférer leur lettre de noblesse expérimentale aux sciences de l'éducation. La seconde phase s'inscrit dans le prolongement de la première, mais contre laquelle ces porte-bannières s'opposent radicalement en même temps. Schématiquement énoncée au tournant des 19e et 20e siècles, l'extension des systèmes de formation génère une demande renforcée de théorisation et qualification pédagogique, permettant une démultiplication des ancrages universitaires de la pédagogie. Mais ce processus s'inscrit aussi dans le contexte d'une critique sans concession à l'encontre de cette vaste entreprise de scolarisation, jugée sclérosée et sclérosante, en contradiction donc avec les idéaux républicains et démocratiques qui la justifiaient. Et ces critiques se réfractent sur les approches scientifiques qui la fondaient. On l'a signalé pour l'ère barcianisme, il en va de même de la science de l'éducation se référant à la philosophie, elle aussi diabolisée, taxée de dogmatique, doctrinaire et spéculative. Et donc, c'est une approche résolument expérimentale qui est alors revendiquée, qui saurait, elle, mieux tirer parti des avancées des autres sciences, en s'ancrant plus fermement sur le terrain des pratiques sociales pour rénover les pratiques pédagogiques en tenant mieux compte des besoins spécifiques jugés naturels de l'enfance. De nouvelles sciences font référence. En premier lieu, la psychologie, mais également, très clairement, la biologie, la médecine, la sociologie naissante, le droit, etc., elles aussi en quête de reconnaissance et terrain d'application. Ici, les indices institutionnels et scientifiques sont innombrables et j'avoue à nouveau avoir été impressionnée devant ce foisonnement. Ces principaux emblèmes et travaux, résolument expérimentaux qui le fondent, qu'on voit ici défiler, et des productions qui sont diffusées, discutées non plus seulement dans des dictionnaires et des encyclopédies, mais également dans des revues spécialisées. Regardons plutôt au niveau de l'Europe, hein, donc au début du XXe siècle. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse notamment, voient se démultiplier les laboratoires expérimentaux, au sein de l'université également. Désormais dans des instituts indépendants, comme à Londres en 1902, ou dans des facultés de lettres, de psychologie et même de sciences, combien même l'enjeu constitue tout le temps à former les enseignants. Et ceux-ci peuvent couramment soutenir ces initiatives. Certes, durablement marquées par la censure, et donc longtemps méconnues dans nos contrées, la Russie constitue aussi un pôle important, recensant en 1910 une cinquantaine de laboratoires psychopédagogiques. En francophonie, on le sait évidemment, des sites et des initiatives font référence. En Belgique, après le laboratoire de pédagogie de Ruyten en 1898, deux éphémères manifestations qui n'en témoignent pas moins la grandiosité du projet scientifique envisagé. Par exemple, le congrès de pédologie de 1911 de Bruxelles, et puis la faculté internationale de pédologie en 1912, qui fermera ses portes en 1914. On se souvient du cri du cœur enthousiaste de sa cheville ouvrière. Un seul chiffre a plus de valeur que toute une bibliothèque pleine d'hypothèses. En France, vous le savez, Binet, après avoir intégré la Société libre pour l'étude psychologique de l'enfant, inaugure le laboratoire école de pédagogie expérimentale, où il élabore avec Simon la fameuse échelle métrique de l'intelligence, dont l'audience sera plus importante aux États-Unis qu'en France. Mais c'est là aussi que se forment les jeunes voix. Nombre d'entre eux seront avantageusement tirés parti de cette dynamique pour faire de la cité l'un des épicentres, à la fois de l'éducation nouvelle et des sciences de l'éducation, parce que l'enjeu étant bien montré, ces deux éléments, puisqu'à Genève, on se revendique donc d'un pluriel disciplinaire. Un pluriel qui fera désormais référence en francophonie. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'ils appellent leur institut une école des sciences de l'éducation, mais en même temps, la dénomination qu'ils revendiquent, c'est l'Institut Rousseau, montrant le lien entre cette militance pour l'éducation nouvelle, une réforme, et puis à la fois pour la science. Ils privilégient une approche très clairement psychopédagogique. Leur programme d'enseignement, eux, convoque quasiment toutes les disciplines alors représentées à l'université. Et aussi, démultiplient les laboratoires expérimentaux en faculté des sciences, et pris eux aussi de mesures et de tests, mais aussi dans des laboratoires vivants du renouveau éducatif, c'est-à-dire des écoles nouvelles. L'enjeu, je cite, consiste à pénétrer dans la vérité de l'école pour la juger pièce en main. Citons parmi d'autres la Maison des Petits, où d'innombrables étudiants et chercheurs, Jean Piaget en premier lieu, mènent leurs observations pour comprendre le développement naturel de l'enfance, pour renouveler conception et méthode éducative. L'institution, on le sait, connaîtra un rayonnement et une longévité ayant peu d'équivalent en Europe à cette époque-là. Mais c'est vers les États-Unis que tous les regards convergent désormais, pour conférer à la recherche éducationnelle ses lettres de noblesse scientifique et académique dans cette deuxième phase. Donc, se multiplient les pèlerinages au cœur de ces laboratoires expérimentaux, ces, je cite, « sanctuaires des savoirs psychopédagogiques », pour reprendre l'expression de Beuys, dans ses notes prises lors de son voyage effectué avec de Crowley en 1922, fasciné qu'il est par cet Eldorado de la démocratie au cœur de cette civilisation d'acier. Ce sont donc les expressions de Beuys. Je vous propose un petit zoom sur l'Association américaine de recherche éducationnelle qui a célébré, elle, ses 100 ans l'an passé. Son histoire exemplifie avec éclat cette étroite intrication entre science et militance, caractéristique donc de cette période, mais aussi d'autres contradictions que la discipline a d'emblée dû défier. L'association est donc créée en 1916 par des directeurs de bureaux de recherche pour faire valoir leurs intérêts et expertises. Ces directeurs collaborent d'emblée avec l'ancienne société herbartienne, devenue entre-temps la Société pour la recherche éducationnelle. Cette association produit de substantielles enquêtes, lesquelles trouvent une double fondation. D'une part, dans de grandes enquêtes expérimentales assorties d'un arsenal de tests, et d'autre part, dans les mouvements réformistes eux-mêmes. Pour ces progressistes, les faits soigneusement récoltés permettraient de connaître la réalité des phénomènes examinés pour proposer des solutions empiriquement testées et en accord avec les objectifs de ces réformistes. Ces objectifs, professionnaliser l'administration scolaire, ajuster plan d'études et méthodes sur les capacités et intérêts des élèves. Sous l'impulsion de ces administrateurs réformistes, la recherche y connaît un essor scientifique prodigieux, quantitatif avant tout. L'association intégrera d'autres courants dans les années 1930, hein, plaidant eux pour des approches qualitatives et mettant en cause l'approche essentiellement bureaucratique et administrative de l'éducation. Mais tous se rallient derrière ce militantisme regardé comme progressiste. On trouve donc dans la même association, à l'origine de l'actuelle notable Association américaine de la recherche éducationnelle, des chercheurs pour l'essentiel réformistes, orientés tantôt vers le rendement du système, tantôt vers de nouvelles conceptions de l'enfance et l'éducation, valorisant donc spontanéité, curiosité, créativité. À l'Université Columbia de New York, on incarne parfaitement cette contradiction déjà vive en 1905. On y trouve d'une part Thorndike, qui développe les travaux sur la mesure de l'intelligence, d'autre part Dewey, qui promeut, dès 1905, une approche centrée sur les intérêts de l'élève. Et les écoles laboratoires, rattachées à l'Université Columbia de New York, testent l'effet de l'enseignement pour des élèves qui sont distingués en fonction de leur QI, tandis que d'autres expérimentent parallèlement méthodes et curriculum innovants. S'agissant des contenus privilégiés, je vais aller vite là parce qu'on les connaît un peu plus, il y a l'analyse des conditions et effets d'intervention pédagogique et didactique, le développement de tests psychologiques pour contribuer à la gestion efficace des flux scolaires, notamment la sélection, l'orientation, et de fait contribuer au développement des systèmes scolaires, à son rendement, des expérimentations scolaires alternatives, parfois, dans un esprit qui peut être libertaire ou plus systématique, mais d'envergure aussi, dans un esprit, lui, résolument positiviste. Et des travaux de psychologie de l'enfant, du développement, mais aussi désormais les autres disciplines, anthropologie, sociologie, eugénisme, médecine, hygiène, psychanalyse. Cette phase, on pourrait dire, elle connaît son apogée dans les années 1920, où des projets de transformation, donc au-delà des USA, à vaste échelle, sont mis en œuvre, notamment à Hambourg, Vienne, en Union soviétique, au Brésil, en Colombie et bien sûr aussi aux États-Unis. Mais cette effervescence pédagogique s'estompe, on le sait, avec les turbulences internationales, quand elle n'est pas bridée puis muselée, avec la montée des nationalismes, puis la Seconde Guerre mondiale. Bref, ces premières décennies du XXe siècle peuvent être regardées comme les années folles de la pédagogie. À la faveur de ce qu'on peut appeler les pressions réformistes d'une époque toujours tenaillée par la question sociale, d'États-nations soucieux du rendement des systèmes éducatifs en pleine expansion, donc comme le 19e, de professionnels de l'éducation en quête de reconnaissance et qualification, mais aussi désormais des reconfigurations du monde académique où de jeunes disciplines s'efforcent de conquérir leur légitimité. L'éducation et la formation, mais aussi plus largement l'enfance, l'adolescence, le développement et l'apprentissage, se profile comme objet et terrain d'investigation convoité. Nombre d'intellectuels et savants, parfois aussi soutenus des associations enseignantes, s'investiguent donc de la mission de construire cette approche résolument expérimentale de l'éducation. Et par-delà la diversité de leurs profils, ils sont réunis par la conviction du potentiel émancipateur de la science pour élucider les mystères de l'évolution et pour agir par l'éducation sur le devenir de la société et de l'humanité tout entière. Précisément, grâce à cela, la discipline conquiert de nouveaux territoires, institutionnels, scientifiques, méthodologiques. On peut dire rétrospectivement que cette conquête disciplinaire se concrétise de façon quelque peu indisciplinée. Trois contradictions imbriquées peuvent être pointées. Elles semblent fonctionner, en tout cas c'est comme ça qu'on les lit, à partir des travaux d'histoire et de sociologie des sciences de l'éducation. On peut aussi les lire comme ressort du processus. Si elles suscitent déjà controverse à l'époque, elles n'apparaissent pas nécessairement en réalité comme contradictoires pour les contemporains. On pourrait dire dans ces trois contradictions, la première, une revendication expérimentaliste, mais qui est portée par une vision naturaliste non dénuée de romantisme. Se conjugue là une aspiration scientiste qui prend pour credo la science, surtout les sciences naturelles et leurs méthodes, quantitatives aussi, avec une aspiration romantiste, de fait humaniste, qui postule l'intangibilité des lois de la nature. Le recours à des méthodes scientifiques résolument expérimentales permettrait d'observer, analyser, mesurer, tester, classifier, évaluer l'enfant pour élucider les lois de son développement naturel afin d'ajuster les méthodes éducatives à ses besoins propres, favorisant ainsi son épanouissement et donc celui de l'humanité tout entière, tout en contribuant au rendement du système. Deuxième contradiction, ces revendications positivistes, mais aussi avec des ferveurs réformistes. Ces convictions indéniablement positivistes, plaidant donc pour des laboratoires sur le modèle des sciences exactes, s'articulent couramment à une ferveur réformiste. Ce sont les mêmes qui peuvent avoir pour référence les sciences naturelles et qui militent pour ces réformes. Diabolisant la rigidité des systèmes étatiques, ils plaident pour des pédagogies alternatives, écoles nouvelles, qu'ils considèrent même comme les laboratoires pour réformer l'ensemble du système éducatif. Et là, on assiste à des alliances claires entre enseignants, administration scolaire et savants qui en témoignent. Cette ferveur réformiste peut aussi s'interpréter comme une posture critique, celle attendue de toute discipline, mettant en cause des idées préconçues, les systèmes établis, leur lot de soumission, incohérence, injustice. C'est à ce titre aussi, j'y reviendrai, qu'une discipline qui sait faire preuve d'un point de vue critique pouvant conduire à une forme de résistance, insoumission, autrement dit une discipline indisciplinée, peut avoir ses vertus aussi. Troisième contradiction, s'inscrivant en étroite intrication avec d'autres sciences qui, elles aussi, portent leur attention sur l'éducation, les représentants de la discipline peuvent simultanément revendiquer de constituer une discipline autonome et pluridisciplinaire. Un singulier pluriel, certes. Puisque durablement, ce sont bien certains paradigmes et certaines sciences, la psychologie à cette époque, qui imprennent le champ. Les dénominations différentes de la discipline dans les contrées germanophones et anglophones peuvent aussi témoigner de la prévalence d'autres paradigmes, comme l'ont démontré Schriver, Kainer, De Pape notamment. Après le foisonnant mais évanescent paradigme pédologique, c'est donc la psychopédagogie qui s'impose, même là où, comme à Genève, le pluriel des sciences de l'éducation est très tôt revendiqué et qui, ensuite, va lui aussi s'imposer en francophonie. Pour preuve, l'anniversaire que vous fêtez des sciences de l'éducation, c'est la dénomination, en fait, qui est nouvelle aussi en 1967. J'en viens précisément à la troisième phase. L'explosion scolaire de l'après-guerre, résultant de l'expansion économique des Trente Glorieuses, d'où ce titre, et ses nouvelles pressions qualificatives, génère une immense demande de connaissances scientifiques dans le domaine de l'éducation. Sous les maîtres mots de capital humain, autant que démocratisation, un investissement inégalé dans la recherche éducationnelle en découle, convoquant largement les disciplines de référence, psychologie, sociologie, relayée aussi par l'économie, mais encore d'autres formes d'articulation avec les champs professionnels, les milieux politiques et économiques et les organismes internationaux. Néanmoins, on peut dire qu'on assiste à l'institutionnalisation durable, nationale d'abord, des sciences de l'éducation, qui revêtent désormais les principaux traits de la forme sociale spécifiant les disciplines académiques, à savoir une infrastructure institutionnelle qui permet une professionnalisation de la recherche, une socialisation dans le champ, la constitution de réseaux de communication favorisant la construction et diffusion des nouvelles connaissances scientifiques s'y rapportant. Ces indices vous sont connus, donc des cursus d'études autonomes qui délivrent tous les titres académiques et évidemment l'enjeu du doctorat est fondamental. Et la multiplication des chaires, départements, facultés de sciences de l'éducation, partout en Europe comme en d'autres contrées. Par contre, ceci, et là il y a une forme de nouveauté, ceci se traduit par la fondation d'associations nationales de chercheurs. Dans quasiment tous les pays européens, comme vous le voyez sur cette diapositive. À noter que là, la France s'embarque d'emblée et dynamiquement dans le mouvement, et l'on ne peut parler à ce niveau d'un retard qui serait évoqué pour d'autres périodes. Retard que, pour moi, auquel je ne souscris pas personnellement. À en croire les noms de ceux qui sont engagés dans l'association AECS, elle est dynamisée à la fois par ceux qui assument les formations au centre de l'éducation et par ceux qui font de la recherche éducationnelle, aussi à partir d'autres ancrages disciplinaires, sociologie, psychologie, philosophie, etc., dans d'autres institutions. Et il n'est certainement pas faux de postuler, comme le fait André Robert, que les organismes internationaux qui incitent à renforcer la recherche éducationnelle et dans lesquels sont insérés ces chercheurs, notamment Gaston Mialaret, et puis inciter à ces mobilisations, autrement dit, à cette nouvelle forme de disciplinarisation. Cette mobilisation, là encore, peut puiser son ressort dans un questionnement se rapportant à des enjeux d'ordre sociaux, politiques, économiques, un positionnement critique qui alimente, comme dans d'autres sciences sociales, certains champs de recherche, à l'exemple, évidemment, des investigations bienvenues sur les rapports au savoir, les enjeux genre, l'égalité, plutôt les inégalités, les politiques scolaires, et j'en passe. On assiste aussi à une démultiplication des revues en sciences de l'éducation, et notamment, c'est le cas pour la France, avec, elle a été citée, la Revue française de pédagogie, créée effectivement en 1967, mais l'autre revue également sur laquelle je reviendrai avec une dia, la Revue des sciences de l'éducation, de fait, est un prolongement de la Revue pour l'ère nouvelle, qui, elle, a été créée en 1922. Mais la plupart des autres associations nationales ont, elles aussi, leur revue. Il y en aura plusieurs, comme d'ailleurs en France. Ce qui change aussi, du point de vue institutionnel, c'est que la dernière décennie du XXe siècle se distingue par la mise en réseau institutionnel de plus en plus poussé des chercheurs et guionné par des organismes internationaux, notamment les programmes de recherche au sein de l'Union européenne ou les programmes d'évaluation PISA, CERI de l'OCDE. Se multiplient et se densifient les sociétés scientifiques internationales, notamment au niveau européen, dont EARLY, ERA, même si les chercheurs, curieusement, travaillant en sciences de l'éducation, notamment en francophonie, ont pris du temps pour s'y reconnaître, posant la question rémanente de leur communauté de référence. Deux organisations mondiales sont actives, celle des sciences de l'éducation fondée d'abord par un cercle, on peut dire quand même assez restreint, en 1961 à Oslo, et la ERA, mise sur pied en 2009 à San Diego, regroupant des associations nationales et continentales. Les analyses comparatives montrent que deux ressorts agissent diversement suivant les contextes et confèrent une forme institutionnelle et cognitive particulière en champ. Je vous propose ici trois exemples très simples. Suède, Allemagne, Portugal. Le tableau que j'ai fait est extrait de rapports nationaux sur ces trois pays, qui montrent que la demande d'enrichissement du stock de connaissances dans lequel les gestionnaires professionnels praticiens peuvent puiser pour définir leurs politiques et réformes, garantir l'efficacité et la gestion des systèmes éducatifs, améliorer les pratiques pédagogiques, va fournir une impulsion décisive au déploiement des sciences de l'éducation. Mais on a aussi la demande d'une qualification accrue des métiers éducatifs, des enseignants toujours surtout, mais aussi des cadres scolaires, des formateurs d'adultes, des travailleurs sociaux et autres. Et suivant leur prégnance, variable en fonction des aires culturelles et des traditions académiques, ces ressorts modèlent différemment le champ disciplinaire. Évidemment, du coup, ces ressorts étant les conditions pour obtenir des fonds, implique qu'on y soit attentif.
Oui. C'est pas pour tout de suite. Hein.
L'analyse des réseaux et associations nationaux et internationaux permet d'esquisser la structure cognitive du champ disciplinaire, on pourrait dire son anatomie. Et ici, je serai brève, d'autant plus que Marguerite Alter en a parlé, en tout cas comment ça se présentait pour un certain nombre de Français, dont Gaston Maillard. Elle révèle un ensemble hybride, foisonnant, de fait fragmenté aussi, on le sait. Il est structuré, on pourrait dire, en grands champs professionnels et sociaux de référence. Là, je vous ai mis les networks dans ERA. Formation des enseignants, des adultes, des cadres de la petite enfance, du spécialisé, etc. Mais il y a aussi des domaines thématiques traversants, les études curriculaires, didactiques, apprentissage, enseignement et évaluation, éducation multiculturelle, équité, éducation comparée, efficacité, etc. Et bien sûr, l'ensemble des problématiques qui se rapportent aux différentes méthodes de recherche. Mais on repère aussi une logique disciplinaire. On les a amplement évoquées, psychologie, sociologie, économie, histoire, philosophie, linguistique, qui nourrissent les sciences de l'éducation dans deux sens du terme, je dirais. Par des recherches qui sont menées par ceux qui ont une origine dans une discipline spécifique, par exemple sociologie ou psychologie, l'éducation est prise comme un objet parmi d'autres de connaissances, en fonction des modèles théoriques de cette autre discipline, mais aussi par l'arrivée de chercheurs qui sont formés dans une discipline originelle autre, précisément sociologie et psychologie, et qui s'intègrent dans les sciences de l'éducation, structurées, elles, à dominante, par des domaines thématiques. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est que ces disciplines elles-mêmes se trouvent ainsi transformées par leur intégration en sciences de l'éducation, et réciproquement d'ailleurs. On pourrait dire que là, les sciences de l'éducation sont en quelque sorte une plateforme d'échange, de dialogue. De moins, les didactiques sont elles aussi désormais conviées à ces échanges. J'en viens précisément à ma conclusion. Les reconfigurations récentes du paysage universitaire des légitimations scientifiques confrontent les sciences de l'éducation, comme d'autres champs disciplinaires, à de nouveaux défis. Elles ont à répondre à des exigences scientifiques accrues, plus normées, tandis que les pressions sociales s'exercent sur elles avec une puissance renouvelée, dans un contexte où la concurrence s'accroît, tandis que les fonds publics pour la science sont volontiers mis en question. Les systèmes d'éducation sont soumis à des mécanismes de régulation par l'output. La production de ces outils d'évaluation, leur traitement, leur interprétation à tous les échelons du système nécessite la création d'institutions et de réseaux de chercheurs bénéficiant d'une certaine stabilité et d'une envergure internationale. Par ailleurs, de nouvelles filières de formation sont hissées au niveau du tertiaire, non plus seulement pour la formation des enseignants, mais bien d'autres professionnels de l'éducation et de la formation susceptibles de recourir aux apports des sciences de l'éducation en diversifiant leurs profils, ouvrant aussi de nouveaux champs de recherche éducationnels ou renforçant d'anciens. Ces tendances, indéniablement, on pourrait faire un renforcement de l'assise institutionnelle des sciences de l'éducation. Mais on assiste simultanément aussi à un renforcement de leur vocation professionnalisante, au risque de se voir aussi réduite à des dimensions pédagogiques et prescriptives. Les controverses autour de leur légitimité scientifique, académique, au même titre d'ailleurs que d'autres sciences sociales, de fait traversées de mêmes débats, et de leurs critères de pertinence, notamment sociale versus scientifique, sont remises sur le métier. Et on l'a vu, les procès d'intention dont il a été évoqué au début, ce mouton noir des sciences de l'éducation, évidemment, en témoigne. Ces évolutions posent avec une nouvelle acuité le problème du rapport entre les dimensions régionales et nationales des sciences de l'éducation auxquelles convient leur objet et leur dimension internationale en lien avec l'élaboration de connaissances ayant, elle, une visée potentiellement universelle. L'internationalisation croissante, de fait l'emprise anglo-saxonne, renforce ce problème, les sciences de l'éducation étant sommées, pourrait-on dire, à dépasser leur tradition nationale si elles entendent être reconnues comme interlocutrices légitimes des autres disciplines, sur l'avant-scène mondiale, mais elles ont simultanément à toujours assumer leurs fonctions et influences sur les réalités régionales et locales, aux pratiques culturelles différenciées, voire contrastées, qui conditionnent pour l'essentiel l'octroi de leurs ressources humaines et financières. Ce voyage démontre, dans le temps, que les sciences de l'éducation se développent comme d'autres domaines de savoir, par fission, fusion, extension, à la croisée d'autres champs professionnels et sociaux et d'autres champs disciplinaires. Elles sont, à ce titre, tout à fait ordinaires, pour reprendre l'expression significative de Jacqui Peyrou. Mais ce qui pourrait peut-être les distinguer, c'est qu'elles exhibent avec une acuité particulière les contradictions évoquées préalablement, même si elles n'en ont pas l'exclusivité. Je les reprends juste les trois. Contradiction entre ajustement sur les demandes sociales professionnalisantes et quête d'une reconnaissance scientifique qui présuppose justement une suspension momentanée des dimensions praxéologiques. Cette contradiction découle du rapport qu'on a vu qui s'instaure dès les premières formes d'approche scientifique de l'éducation au XIXe siècle, déjà dans ce rapport profession-discipline. Elle sera aussi visible dans la double vocation militante et expérimentale des sciences de l'éducation. On a aussi la contradiction entre le mouvement d'autonomisation des disciplines de référence et le déploiement pluridisciplinaire des sciences de l'éducation. Non sans un rapport ambivalent, entretenu par ses représentants eux-mêmes, donc les sciences de l'éducation, face aux disciplines dites mères, qu'on devrait en réalité plutôt considérer simplement comme des disciplines sœurs. Une contradiction qui s'intensifie durant la deuxième phase que nous avons décrite avec le développement des sciences sociales comme discipline au tournant du siècle. Contradiction entre implication locale et plus globale à visée universelle. Ces contradictions conditionnent donc les sciences de l'éducation dans le double sens du terme, puisqu'elles déterminent leur émergence, leur déploiement, mais orientent aussi leur évolution, aussi bien institutionnelle que cognitive. On pourrait dire en phase avec les pulsations du monde social, à l'interface des champs professionnels et champs disciplinaires, dans un jeu d'échelles entrelaçant les celles locales, nationales, internationales, les sciences de l'éducation peut-être révèlent un degré d'hétéronomie plus important que d'autres champs disciplinaires. Pour conclure, à l'évidence, les sciences de l'éducation sont riches d'un passé dont l'héritage gagne à être connu, pour mieux connaître les tensions, contradictions qui de tout temps les traversent. Comment nos prédécesseurs ont donc composé avec les contraintes qui étaient les leurs pour construire des connaissances visant une meilleure intelligibilité des phénomènes éducatifs, autrement dit, comment ils ont configuré les sciences de l'éducation ici et ailleurs, où ce n'est des citations d'historiens que j'avais mises au début. Tenir compte des recherches déjà faites, en avoir mémoire pour en tirer parti. La cumulativité conditionne les avancées de toute science. Elle permet aussi de faire communauté, être une discipline, pour repérer sur la base des savoirs déjà produits des chantiers particulièrement prometteurs qui peuvent être intégrés dans ces fronts de recherche collectivement définis. J'évoquais initialement l'invitation de Charlot et de tout temps la SCSE d'avoir de définir des fronts de recherche. Donc on pourrait dire qu'une discipline se caractérise précisément par cette concertation collective. À mes yeux, c'est aussi une chance pour les sciences de l'éducation d'avoir cette posture indisciplinée. Cette volonté et aptitude à se saisir des objets chauds socialement, discrimination culturelle, sociale, ethnique, genrée par exemple, pour se confronter à leur complexité et tenter de déjouer les logiques de pouvoir qui s'y jouent. La dimension d'insoumission, de rébellion contenue dans le terme d'indiscipliné, posé donc dans le titre de la conférence, me semble une substantielle vertu des sciences de l'éducation, pour autant que dans sa manière de faire la recherche, elle recourt aux riches instruments institutionnels, scientifiques, méthodologiques, aussi d'une discipline, en connaissent et assument son héritage. C'est ce qui peut leur permettre d'introduire de l'intelligibilité, je crois, de la rationalité, dans des champs pratico-éthiques complexes, qui sinon encourent le risque de devenir le champ de bataille de lutte de pouvoir économique, politique, social, et leur cortège d'injustice, irrationalité, illitérisme. Ou peuvent prévaloir des logiques marchandes, individualiste, contraire au fondement même de la démocratie. Ce que précisément a pour mandat de défier et dépasser celui qui les aborde avec cette lucidité critique attendue de tout chercheur. Et donc, ce n'est pas le moindre défi qui est le nôtre aujourd'hui que de trouver ce juste équilibre entre une posture résolument disciplinaire et ce point de vue indiscipliné porté par une vision émancipatrice visant à préserver les fondements mêmes de nos démocraties contemporaines, fondements que cette discipline pour la République visait aussi à asseoir. Nos possibilités d'action, je crois, elles sont immenses. Notre responsabilité aussi, pour reprendre ces témoignages d'historiens et les propos aussi de Marguerite Alter, repris de Gaston Méharet. Je vous remercie.
Merci beaucoup.